Merci beaucoup. Après la galopade du professeur Romano, j'essaierai d'aller au trot. Mais ce n'est pas garanti parce que je vais commencer au trot et puis on verra suivant le temps qui passe. Je vais vous parler des mêmes problèmes que M. Romano a examinés de manière extrêmement riche et intéressante, mais du point de vue de la LDIP suisse. Parce que, évidemment, l'équation Lugano s'applique en Suisse dans certaines hypothèses. En matière de compétences, ben, comme vous le savez, c'est les critères du domicile du défendeur qui est généralement déterminant, même s'il y a des différences après par rapport à certaines règles particulières et spéciales. Je pense à l'élection de fort en particulier. Il y a aussi les critères, évidemment, du lieu d'adoption de la mesure qui est déterminant en matière de reconnaissance. Donc, ce sont les mesures européennes qui peuvent circuler sur la base de la Convention Lugano, alors que pour les mesures adoptées, les mesures provisoires éventuellement adoptées par un juge ex-européen, ça serait la LDIP qui est compétente et donc on discutera quant à la possibilité de reconnaître et exécuter en Suisse de telles mesures. Avant donc je dirais quelques mots sur la compétence et sur la reconnaissance. Avant de commencer, je ne l'ai pas indiqué sur les slides, mais comme je le disais tout au début de cette conférence, il y a un élément, peut-être un fil rouge qu'il faut tenir à l'esprit et pour les questions de compétence et pour les questions de reconnaissance. Ce fil rouge, cette étoile polaire un peu à laquelle les juges et les praticiens doivent s'orienter pour juger de la compétence et pour juger de la reconnaissance, de l'efficacité et de l'exécution de ces mesures, et celui de la protection juridictionnelle effective. Tous les débats et toute l'extension de la compétence à différents juges, à différentes autorités, et la possibilité de faire valoir certaines décisions étrangères doit être mesurée, je dirais, à l'aune de cette idée de protection effective. Du point de vue de la compétence, on trouve dans la LDIP une règle qui est tout à fait comparable à celle de la Convention de Lugano, dans le sens qu'elle consacre un principe de parallélisme de compétences. Et ce n'est pas nouveau ni par rapport à la Convention de Lugano, ni par rapport à l'arbitrage, d'ailleurs, où aussi on se trouve avec, en général, un principe de parallélisme entre les compétences de l'arbitre, désormais très largement reconnu, même s'il y a toujours quelques exceptions dans certains pays comme l'Italie, par exemple, qui ne permet pas à l'arbitre de prendre des mesures provisionnelles, mais la plupart des pays le permettent, mais il y a aussi toujours une compétence parallèle du juge de l'exécution, du juge étatique, qui est en général reconnu dans la plupart des pays, justement pour un souci de protection, de garantir une protection effective, dans la mesure où les mesures éventuellement prises par le tribunal arbitral pourraient, dans certains cas, ne pas être suffisamment efficaces, suffisamment adapté à répondre aux soucis de l'urgence. Il en est de même en matière de tribunaux étatiques, et donc nous avons un système de compétences parallèles dans le système de la LDIP, dans lequel il y a de nouveau le juge compétent sur le fond. Ah oui, merci. Le juge compétent sur le fond, et il y a aussi le juge compétent au lieu de l'exécution. C'est soit, donc les deux sont compétents de manière alternative. La différence par rapport à l'article de la Convention de Lugano est que ici, la compétence du juge du provisoire est spécifiquement indiquée, donc il n'y a pas un renvoi simplement au droit national, mais il y a une référence au lieu de l'exécution de la mesure, ce qui déjà détermine la portée des mesures qui peuvent être adoptées, qui doivent évidemment se rapporter à des biens situés au lieu de l'exécution, et donc il s'agit des mesures essentiellement territoriales. La notion de mesure provisoire, évidemment, doit être déterminée dans le cas de la LDIP à la lumière de la notion de mesure provisoire en Suisse. Donc on peut se référer aussi aux dispositions du CPC. Vous savez la grande variété qui a d'ailleurs été rappelée par le professeur Romano de différents types de mesures provisoires. Donc cela inclut les mesures conservatoires, les mesures de réglementation, mais aussi les mesures d'exécution anticipée. Mesures d'exécution anticipée qui peuvent être adoptées en Suisse. Le tribunal fédéral l'a reconnu, surtout dans des cas où cela s'impose pour des raisons justement de protection effective des droits, même si avec une certaine prudence et à des conditions particulièrement restrictives de certaines manières, notamment l'urgence et ainsi de suite. Ce sont les fameuses Leistungsmaßnahmen, comme elles sont appelées en allemand. On peut se demander si cela comprend aussi des mesures probatoires. La question est un peu délicate, elle n'est pas clarifiée entièrement. Il y a des mesures probatoires qui ont clairement une fonction conservatoire, la conservation de certains documents qui pourraient, ou certains éléments de preuve qui ne pourraient plus être disponibles au moment où ils seront nécessaires dans le cadre de l'instance. Mais il faut aussi tenir compte que pour les mesures provisoires, il existe aussi des instruments, notamment dans les situations internationales, des instruments transfrontaliers qui se basent sur l'assistance judiciaire internationale. Et il ne faut pas que les mesures provisionnelles soient utilisées pour contourner finalement ces mécanismes et donc à cet égard il faut peut-être faire la part des choses. Il ne faut pas que les mesures provisionnelles soient utilisées dans le cadre d'une procédure pendante pour contourner justement les mesures et les mécanismes qui sont prévus à niveau d'assistance judiciaire internationale, la convention de la Haye de 1970. La reddition de compte ne fait pas partie des mesures provisionnelles, on le sait en droit suisse, le tribunal fédéral l'a rappelé dans un arrêt relativement récent. Pourquoi ? Parce que une fois que la reddition de compte a été ordonnée, eh bien, c'est une décision qui est définitive, on ne peut plus revenir en arrière. Une fois que les informations ont été transmises, une fois que les comptes ont été rendus, ben, on ne peut plus revenir en arrière. Donc c'est déjà une décision, c'est une manière qui anticipe le fond, et donc elle ne peut plus être qualifiée de mesures provisionnelles, donc elle ne tombe pas dans le domaine d'application de l'article. Il y a la question peut-être que je soulève, vu qu'on est dans le contexte international, des anti-suit injunctions. Est-ce qu'un juge suisse pourrait adopter des anti-suit injunctions? C'est très controversé. Il y a un cas de tribunal de Genève qui l'a nié par le passé. La question a été laissée ouverte par l'ATF 138-3-304 parce que dans le cas concret, il ne s'agissait pas en réalité d'une véritable anti-suit injunction. C'était des mesures dans le cadre de la protection des droits de la propriété intellectuelle, mais ce n'était pas réellement des anti-suit injunctions au sens technique. Évidemment, ça, c'est un problème qui doit être examiné à la lumière de l'armamentaire, de l'ensemble d'armes et de mesures qui sont à disposition du juge suisse. La position prédominante est quand même plutôt négative. Le séquestre ne tombe pas sous le coup, selon l'opinion majoritaire, ne tombe pas sous le coup de l'article 10, vu qu'il est réglé par la LDIP. Donc il y a une règle de compétence, comme vous le savez, spécifique dans la LDIP, l'article 271. Et donc cette règle est considérée en général comme une lex specialis par rapport à l'article 10. La grande différence, c'est qu'on peut demander un séquestre au fort de la poursuite ou au fort du lieu de l'exécution du séquestre, mais il n'y a pas une compétence générale au fort de juge compétent pour le fond. Donc ça c'est la grande différence. Souvent le juge de la poursuite pourrait aussi, le lieu de la poursuite est aussi déterminant pour la compétence au fond, mais on ne pourrait pas utiliser des compétences spéciales, par exemple celle en matière contractuelle, pour demander l'ordonnance de séquestre. Si on reste dans le cadre du premier volet donc, de l'article 10, l'article 10 littéra A, donc compétence pour le fond, on retrouve les questions qui ont déjà été examinées de manière très détaillée par le professeur Romano. Donc je peux répéter assez rapidement que tout d'abord, cette compétence sur le fond n'est pas nécessairement concrétisée, donc il ne faut pas que les juges compétents sur le fond soient déjà saisis de l'action. Le tribunal fédéral a rappelé dans l'arrêt Motorola par rapport à la situation Lugano, il suffit une compétence virtuelle. Donc un juge qui serait compétent virtuellement pour le fond peut effectivement adopter de telles mesures, même s'il n'est pas saisi concrètement de la mesure au fond. Et les circonstances rappelées par le professeur Romano justement confirment que les juges anglais n'étaient pas saisis dans le cas concret sur le fond. Tout chef de compétence, cela vaut aussi dans le cas de la LDIP. Tout chef de compétence au fond peut être utilisé à cet effet, donc le domicile du défendeur, mais aussi le lieu d'exécution du contrat, les compétences protectrices et d'autres. Évidemment aussi le fort prorogé, comme cela a déjà été rappelé. Et évidemment, cela comporte que lorsqu'on a conclu une élection de fort et on a exclu la compétence d'un tribunal qui l'aurait été, qui aurait été compétent, la dérogation de la compétence comporte aussi en principe une exclusion de la compétence pour adopter des mesures provisionnelles. Et le tribunal fédéral l'a rappelé aussi dans le contexte Lugano, dans les cas Soda Stream. Quid de l'acceptation tacite Hein, parce que on sait très bien que même si un juge n'est pas compétent sur le fond, bah, il peut être saisi et si le défendeur bah, ne soulève pas dans les délais et selon les modalités procédurales nécessaires l'exception d'incompétence, bah, le juge peut très souvent retenir la compétence sur le fond sous la base d'une acceptation tacite. Est-ce que dans ce cas-là, et dans ce cas-là évidemment il s'agirait d'un juge déjà saisi, est-ce que ce juge saisi qui est compétent pour trancher sur le fond peut prendre des mesures provisionnelles? Il y a deux décisions qui semblent le nier. Ce sont deux décisions dans le cadre de la Convention Lugano. Dans le cas Mitz, la Cour de justice semble effectivement exclure cette possibilité. Et le tribunal fédéral aussi, dans une décision qui n'a pas été publiée, parmi les différents éléments qui sont contenus dans cette décision, semble aussi indiquer que la compétence fondée sur l'acceptation tacite n'est pas suffisante. Je me demande cependant s'il ne faudrait pas distinguer, parce que si effectivement on saisit un juge en demandant une mesure provisionnelle, on ne peut pas fonder cette compétence simplement sur une acceptation tacite, mais si on a saisi effectivement un juge d'une action au fond et ce juge a retenu cette compétence sur la base d'une acceptation tacite, je vois que Maître Hirsch confirme cette idée, me semble-t-il, je pense que ce juge qui est compétent sur le fond et qui peut trancher le fond devrait pouvoir aussi adopter de mesures provisionnelles dans ce cas. L'autre question que je pose à la fin, c'est est-ce qu'il y a une compétence concurrente du juge qui aurait pu être saisi du fond, mais qui ne l'a pas été, alors qu'un autre juge a été saisi du fond. Parce que finalement, l'article 10 se réfère aux autorités qui sont compétentes sur le fond, mais ne se réfère pas aux autorités saisies, comme je l'ai dit. Alors, il se peut qu'une autorité soit saisie sur le fond, et puis une autre autorité qui aurait eu la compétence sur le fond soit saisie d'une demande de mesures provisionnelles. Alors évidemment, cette autre autorité ne devrait appliquer probablement les règles de litispendance. Alors, il faut voir encore si les conditions de litispendance sont remplies, mais pour les questions de fond, la litispendance ne s'applique pas en matière de mesures provisionnelles, et ça c'est admis. Est-ce que ça veut dire que, malgré cela, un juge qui est compétent, qui aurait été compétent sur le fond, mais qui n'a pas été saisi, pourrait prendre des mesures provisionnelles? Franchement, j'en doute un peu, parce qu'évidemment, ça crée une duplication de contentieux qui n'est pas finalement justifiée. On sait que la duplication de contentieux peut exister aussi dans le cas de l'article 10, littéra B, mais là, c'est justifié parce que le juge saisi est celui du lieu d'exécution de la mesure. Je ne pense pas qu'on doit multiplier ces possibilités par rapport aux différentes compétences parallèles qui existent pour le fond. Tout au plus, on pourrait admettre, si on doit admettre une telle compétence, il faudrait peut-être faire jouer une idée de subsidiarité. Si les juges saisis sur le fond, on ne peut pas adopter des mesures provisionnelles, on ne peut pas adopter des mesures provisionnelles qui soient efficaces, peut-être à ce moment-là, on pourrait peut-être envisager effectivement une compétence parallèle d'un juge qui aurait eu la compétence sur le fond, mais qui n'a pas été saisi. À condition que ces mesures puissent avoir l'effet souhaité et puissent être efficaces. Cette compétence juge sur le fond s'étend évidemment, comme je l'ai dit, à toutes les mesures prévues en droit suisse. Ça comprend aussi des mesures extraterritoriales. Donc, je m'en remets à ce que Jean-Paul a rappelé avant par rapport à l'affaire Ribolovlev. La Cour genevoise l'a admis en revenant sur une ancienne jurisprudence de 1990 qui rappelait un peu le cas Ribolovlev parce qu'il s'agissait aussi de véhicules, de trusts et d'institutions qui détenait des fonds à l'étranger. En 1990, la Cour genevoise avait refusé sa compétence en raison de ce potentiel caractère extraterritorial de la mesure. J'y reviendrai en parlant d'exécution. En 2010, les juges genevois ont un peu revu leur copie. Ils sont revenus sur cette idée et le tribunal fédéral a considéré que cela n'était pas arbitraire. Donc finalement, on a effectivement probablement une possibilité d'adopter des mesures extraterritoriales si elles sont prises par les juges qui est saisi sur le fond. Alors, ici, on était dans le domaine du droit de la famille, mais je pense que les considérations devraient valoir aussi en matière commerciale. Alors reste ouverte la question qui s'est posée effectivement dans l'affaire Ribolovlev de la concurrence éventuelle avec des mesures qui avaient, dans ce cas-là, déjà été prises à l'étranger. Est-ce qu'effectivement le juge suisse doit dupliquer des mesures alors qu'il y a un juge à l'étranger qui a déjà été saisi, qui a déjà pris des mesures? Je pense que là aussi c'est une question d'opportunité, c'est pas tellement une question de compétence, c'est une question d'opportunité, c'est une question d'efficacité de la mesure. Si on considère que les mesures à l'étranger sont déjà efficaces, il n'y a plus un besoin de protection et donc le juge ne devrait pas, devrait s'abstenir pour un souci de subsidiarité aussi par rapport à ces mesures qui sont déjà prises et déjà efficaces. Mais si en revanche la mesure étrangère risque de rester sur papier et de ne pas être exécutée, alors à ce moment-là, le juge suisse ne devrait pas se priver, à mon avis, de cette possibilité. J'enviens à la deuxième compétence de l'article 10 littéra B. Alors, c'est les juges du lieu d'exécution. Donc là, effectivement, ce sont des mesures, c'est une compétence concurrente. Elle peut exercer, même si le juge compétent sur le fond a déjà été saisi. Et donc, on n'a pas de litispendance. Le tribunal fédéral l'a confirmé à plusieurs reprises en matière de mesures, pour les mesures provisionnelles. On n'applique pas la règle de litispendance de l'article 9 de la EDIP. La règle s'applique même si la compétence sur le fond est exclusive, en matière, je sais pas, immobilière, mais évidemment, après, il y a le problème de l'exécution, de l'efficacité de cette mesure. Mais en tout cas, la Cour de justice l'a confirmé aussi dans un cas qui concerne la Convention Lugano, le cas Solvay. Cette compétence existe aussi en cas d'élection de fort. Donc, même si les partis ont choisi un fort à l'étranger, ils lui ont donné la compétence pour trancher les fonds du litige, ou s'il existe une convention d'arbitrage, le juge, je salue Alexander Layton qui vient d'arriver de Londres, et j'ai donc le juge qui est situé au lieu de l'exécution de la mesure est quand même compétent pour la prendre. Alors c'était les Cavanoude qui étaient rappelés par Jean-Paul Romano en matière d'arbitrage, mais c'est aussi une règle qui est confirmée en matière d'arbitrage dall'article 374 CPC. Elle vaut aussi dans l'arbitrage international et elle vaut aussi dans le cadre des litiges étatiques. La question qui se pose est celle de la possibilité éventuellement d'exclure cette compétence. Il s'agit d'une compétence impérative. Alors, ce n'est pas une question qui arrive très fréquemment en pratique. Les partis probablement n'auront pas tendance, lorsqu'ils font une élection de fort, de préciser qu'ils veulent exclure aussi la compétence du juge du lieu de l'exécution pour les mesures provisoires. Peut-être qu'ils n'ont pas l'intérêt de le faire et peut-être elles veulent l'éviter. C'est le même problème qui se pose finalement dans les cadres de l'arbitrage. En matière de convention d'arbitrage, ben justement, c'est aussi une question discutée. On connaît beaucoup de cas dans le cas de l'arbitrage sportif, par exemple. Vous savez que le règlement TAS exclut à l'article 37 la compétence parallèle, disons, du juge étatique lorsqu'il y a une convention d'arbitrage TAS. C'est un peu la même problématique. On a un juge qui est choisi pour le fond, un juge étatique, dans ce cas, choisi pour le fond. Est-ce que les partis peuvent exclure la compétence parallèle du juge du provisoire? Alors, selon le tribunal fédéral, dans le cas Soda Stream, cette possibilité existe, mais la compétence doit quand même être maintenue dans la mesure où il faut garantir une protection effective. Parce que cette rénonciation anticipée, si vous voulez, à la compétence juge de l'exécution, risque de priver l'une des parties d'une protection efficace lorsqu'il doit demander une mesure urgente qui doit être immédiatement exécutée. Et donc cela est un critère pour préserver ces critères de compétence, je dirais même en cas de dérogation voulue par les parties. Le caractère impératif a été même reconnu de manière expresse dans les cas internes, dans le cadre de l'article 13 du CPC. On a dit sì, c'est une compétence impérative, on ne peut pas y déroger. Le juge du lieu de l'exécution a un pouvoir parallèle à celui du juge du fond. Est-ce qu'il y a une règle, disons, une certaine subsidiarité du juge du lieu de l'exécution? Ce qui pourrait transparaître de cet arrêt Soda Stream, finalement, le juge de l'exécution qui a été écarté intervient seulement dans la mesure où les mesures prises par le juge du fond ne sont pas efficaces ou où le juge du fond ne peut pas en prendre. Est-ce qu'une telle règle de subsidiarité pourrait exister de manière générale dans le cas de l'article de l'article 10 de la LDIP, indépendamment d'une dérogation par les parties? Alors, le tribunal fédéral a admis en matière de divorce, finalement, la possibilité du juge suisse d'adopter sur la base de l'article 10 des mesures provisionnelles alors qu'il y a un divorce à l'étranger, un juge étranger a été saisi de l'action en divorce, a été reconnu comme subsidiaire. Bon, on a toute une série de décisions, la plus importante, la TF 134, 3326. Donc il faut vérifier si le juge à l'étranger est à même de prendre telle mesure, si ces mesures sont équivalentes, si elles peuvent être exécutées en Suisse, etc. etc. Est-ce qu'on peut dire la même chose dans le cadre de l'article 10B de la LDIP en matière commerciale? Il me semble que ça serait une idée intéressante, mais pour l'instant, on n'a pas de jurisprudence spécifique là-dessus. Je pense que ça pourrait être un critère pour guider un peu ce rôle du juge de l'exécution qui risque effectivement de dupliquer finalement un contentieux par rapport au juge saisi au fond. Mais évidemment, cela suppose que les mesures prises par le juge du fond puissent être exécutées en Suisse. Et donc, j'y reviendrai tout à l'heure dans le contexte de l'exécuture éventuellement. Est-ce qu'il y a une condition d'urgence? Alors, le tribunal fédéral l'a affirmé dans certaines décisions, mais en revanche, il vient de le nier, la décision récente concernant la règle de l'article 13 CPC, dans laquelle il a dit clairement que cette compétence au lieu d'exécution n'est pas liée à l'urgence. C'est une question ouverte, mais je pense qu'elle doit être aussi examinée toujours à l'aune de cette idée de la protection effective, finalement. Les mesures provisionnelles doivent être toujours liées à un besoin de protection, et donc parfois la condition de l'urgence démontre et éprouve cette exigence de protection, et l'absence de l'urgence, parfois, peut nier ces besoins de protection au provisoire. Est-ce que ces mesures peuvent être extraterritoriales? Ben là, la réponse est clairement négative. Le législateur fédéral, en 2011, a précisé qu'il s'agit du juge du lieu de l'exécution. Et donc, en faisant cela, évidemment, ça suppose que l'exécution doit avoir lieu en Suisse. Et donc, le juge saisi sur la base de l'article 10, littéra B, d'une demande de requête à mesure provisionnelle, ne peut pas prendre des mesures extraterritoriales. Le tribunal fédéral l'a aussi confirmé. C'est une solution, finalement, qui se calque sur celle qui était retenue dans le cadre du droit européen. On va parler tout à l'heure dans le cadre du règlement Bruxelles 1 bis, qui en reprenant mais en précisant aussi la jurisprudence antérieure a finalement posé ses limites pour les mesures extraterritoriales. Reste la question, est-ce qu'il peut y avoir des cas dans lesquels la mesure doit être exécutée partiellement en Suisse? Est-ce que cela pourrait permettre éventuellement de prendre quand même cette mesure? Je pense qu'on pourrait se le permettre dans certaines situations. J'en viens à l'exéquature, un thème extrêmement discuté. Avant de l'aborder, l'exéquature, donc, je répète, de mesures provisoires adoptées par une autorité, par un juge d'un État non lugano, en Suisse, est-ce que c'est possible, est-ce que ce n'est pas possible? Donc, c'est une question qui n'est pas clarifiée toujours. À 30 ans de l'entrée en vigueur de la LDIP, nous sommes encore dans l'incertitude, ce qui est quand même assez étonnant. Ça pourrait faire douter de l'intérêt pratique de la question. C'est pour ça que j'ai mis le point d'interrogation. Est-ce que vraiment c'est une question qui se pose en pratique? Alors, c'est vrai que, et c'est un des arguments des opposants de cette possibilité, c'est vrai qu'effectivement, il y a l'article 10, littéra B, qui permet de demander des mesures directement en Suisse au lieu de l'exécution. Donc, finalement, pourquoi faire reconnaître des mesures étrangères alors qu'on peut le demander directement au juge de l'exécution en Suisse? Alors, d'autre part, il y a quand même un certain nombre de considérations qui, à mon avis, montrent qu'il peut y avoir un intérêt de reconnaître, exécuter des mesures étrangères. En premier lieu, parce que le juge saisi au fond, évidemment, il connaît mieux le dossier. Et pour les mesures provisionnelles, on doit apprécier plusieurs choses. On doit apprécier la vraisemblance de la créance, le fumus boni iuris. Évidemment, le juge saisi au fond est le mieux placé pour apprécier ces éléments-là, comme d'ailleurs l'est l'arbitre. C'est les mêmes raisons, finalement, qui ont justifié l'attribution de compétences à l'arbitre pour les mesures provisionnelles. Il doit aussi pondérer les intérêts des parties. Alors, qui mieux que le juge qui est saisi de l'action au fond pourrait pondérer l'intérêt des parties à obtenir la mesure provisionnelle en question? C'est là évidemment d'autant plus si la mesure est une mesure éventuellement d'exécution anticipée ou ce type de mesure qui concerne de manière directe le fonds. Il y a un intérêt sans doute à la centralisation de la procédure. Pourquoi dupliquer les procédures si un juge est déjà saisi de l'action? Il y a sans doute aussi un intérêt lorsque la partie qui souhaite la mesure, le requérant, a déjà obtenu cette mesure auprès du juge étranger et il a obtenu une mesure qui a un effet, potentiellement un effet extraterritorial. Pourquoi lui imposer de redemander une mesure en Suisse? Il ne s'agit pas d'un juge d'appui suisse qui intervient pour mettre à exécution la mesure. Ici, il s'agirait de saisir le juge suisse pour demander de nouveau la mesure en Suisse. Alors, pourquoi ne pas permettre à cette mesure, finalement, de circuler et d'être reconnue, évidemment, à certaines conditions? Et puis, le dernier argument qui, à mon avis, montre l'intérêt pratique, c'est que les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en Suisse sont parfois restrictives. On en a parlé du séquestre, on a parlé même si c'est interprété de manière assez large par le tribunal fédéral, le lien suffisant avec la Suisse, surtout le fait qu'il faut démontrer dans l'instance de séquestre qu'il y a des biens situés en Suisse et démontrer où ils sont situés. Alors, dans ce type de situation, je pense que ça pourrait être utile, dans certains cas, de pouvoir compter sur une exéquature. Alors, la question est très controversée. Je souligne que les autres textes internationaux qui sont applicables en dehors de la Convention de Lugano ne donnent aucun appui. Les conventions bilatérales ne couvrent pas cette question. Certains traitent de la compétence, mais pas de l'exéquature. La Convention de l'AE sur l'élection de fort, qui n'a pas été ratifiée de toute manière encore par la Suisse, exclut les mesures provisionnelles. Le projet de Convention de l'AE, il y a Niklas Mayer qui fait partie de la délégation suisse ici, exclut aussi expressément, projet de Convention de l'AE sur la reconnaissance des jugements, exclut aussi expressément les mesures provisionnelles. Alors, la disposition pertinente, c'est de l'article 25 de la LDP, qui pose évidemment certaines questions. Alors, le tribunal fédéral, pour l'instant, a laissé la question ouverte. Il l'a évoquée dans deux décisions, mais il n'a pas tranché. Peut-être, on peut dire qu'il a implicitement admis en matière de divorce, en matière de famille, parce que justement, cette jurisprudence qui établit une subsidiarité du juge suisse par rapport au juge étranger, par rapport aux mesures de réglementation en matière de divorce, démontre que ces mesures de réglementation doivent pouvoir être reconnues en Suisse à certaines conditions. Justement parce que l'une des conditions pour la compétence subsidiaire est que la mesure ne puisse pas être reconnue en Suisse. Voilà. Donc on pourrait en déduire peut-être implicitement une volonté de l'admettre. Dans le droit cantonal, dans la jurisprudence cantonale, on a un nombre très limité de décisions, mais il y en a certaines. Il y a deux décisions de Bâle, à distance de 10 ans l'une de l'autre, une décision aussi de Saint-Gall, qui l'admettent. Et il y a deux décisions de Zurich qui sont contre, mais on ne sait pas très bien si elles sont contre sur le principe ou si elles sont contre la reconnaissance dans le cas concret de la mesure. J'ai plutôt l'impression que c'était les conditions spécifiques de la mesure. Il s'agissait des mesures superprovisionnelles, entre autres, dans un de ces cas. Peut-être c'était ça qui était déterminant. La doctrine est divisée, alors c'est toujours difficile de déterminer les majorités ou les minorités, surtout en doctrine juridique, mais j'ai l'impression qu'il y a un nombre d'auteurs de plus en plus important qui se prononce en faveur de cette possibilité. Quels sont les arguments contre? Je prendrai encore 2 ou 3 minutes pour les passer en revue. Les arguments contre, d'abord, il y a des arguments, si vous voulez, formels, un peu. Il y a le message, mais le message ne dit pas grand-chose. Le message dit que le projet ne traite pas de la reconnaissance des mesures provisionnelles. Donc, ce n'est pas vraiment un rejet clair de la volonté de reconnaître. Est-ce que c'est une lacune qualifiée? La question est ouverte. Mais il me semble que 30 ans après l'entrée en vigueur de la LDP, on est quand même légitimé à admettre éventuellement un développement à niveau prétorien pour reconnaître la possibilité de reconnaître ces mesures. Il y a l'argument fondé sur le caractère définitif. Vous savez que l'article 65 impose que la décision étrangère soit définitive pour la reconnaître ou qu'elle ne soit plus soumise à des recours ordinaires. Et donc, de cette exigence du caractère définitif, certaines déduisent que les mesures provisoires, par définition, ne peuvent pas être définitives, justement parce qu'elles sont limitées au provisoire et donc elles ne pourraient pas être reconnues. Alors, on peut, et plusieurs auteurs l'ont fait, on peut objecter que les termes définitifs peuvent avoir des significations différentes. Et là, on a quand même des mesures qui mettent fin à la procédure, qui ne sont plus soumises à des possibilités de recours pour ce qui concerne le provisoire. Et donc, dans cette mesure, on peut parler de mesures définitives. D'ailleurs, le tribunal fédéral admet que les mesures provisionnelles sont finales au sens de la loi sur le tribunal fédéral. Donc, on pourrait l'admettre peut-être dans le même sens. Je pense que ce son est peut-être pour moi, mais je vais rapidement terminer. Il y a encore l'argument fondé sur la fonction palliative de l'article 10. C'est clair que, comme on l'a vu, l'article 10 offre quelque chose de très utile dans beaucoup de cas et qui est souvent déterminant, mais il y a quand même des cas, comme je viens de l'évoquer, dans lesquels l'exequatur pourrait peut-être être une option intéressante. Il y a d'autres arguments contre qui sont un peu moins formels, qui vont un peu plus au-delà de ce que la LDP suggère ou indique. Il y a l'idée du caractère un peu trop précaire de la mesure. Est-ce que vraiment il faut reconnaître des mesures qui ont un caractère provisoire, qui sont destinées à tomber? Évidemment, ce sont des mesures qui sont destinées à perdre toute efficacité avec la décision au fond. Et donc, il faut s'assurer après qu'avec la possibilité de reconnaissance ou l'impossibilité éventuellement de reconnaissance de la décision sur le fond, ces mesures tombent. Si on constate qu'il n'y a pas de décision au fond, que la décision au fond n'est pas reconnaissable, ces mesures devront tomber. Donc, il faut bien s'assurer de cette condition et il faut assurer aussi qu'il y a la possibilité de rembourser, de restituer ce qui a été éventuellement versé à titre des mesures provisionnelles, comme la Cour de justice aussi l'a souligné. Donc peut-être limité par rapport à certains types de mesures, donc prendre des sauvegardes, mais cela ne me semble pas exclure de manière catégorique, notamment pour les mesures conservatoires, toute possibilité d'exécution. La nature des mesures provisoires a fait dire à certains que finalement une exécution transfrontière n'est pas adaptée parce que j'en discutais avec un avocat genevois récemment. Il me disait, mais finalement, les mesures provisoires sont différentes des mesures au fond par rapport à leur nature. Il ne s'agit pas de juridiction, il s'agit d'imperium du tribunal et cet imperium ne peut pas s'exercer de manière extraterritoriale. Mais bon, on l'a vu, la Convention Lugano l'admet, il y a eu beaucoup d'évolutions. Alors, c'était un argument traditionnel. en 1990, la Cour de justice de 1990 justement évoque cet argument pour exclure, pour refuser des mesures extraterritoriales. C'était l'argument de l'ancien concordat sur l'arbitrage qui interdisait à l'arbitre de prendre, interdisait, qui prévoyait que l'arbitre pouvait suggérer des mesures provisionnelles mais pas les ordonner. Et c'est finalement aussi l'argument qui avait conduit en 1958 à exclure les mesures provisionnelles de la reconnaissance dans le cas de la Convention de New York. Mais il y a beaucoup d'évolutions, l'évolution dans le système européen, il y a beaucoup d'évolutions dans les droits de l'arbitrage avec la reconnaissance du pouvoir de l'arbitre, avec aussi une tendance à reconnaître de plus en plus, on en parlait cet après-midi, la possibilité de l'exécution de mesures provisionnelles arbitrales. Je pense à la loi modèle de la CNUSSI de 2006 en particulier. Un dernier argument pourrait être celui de la rareté d'équivalent en droit comparé, donc finalement d'un manque de réciprocité. Pourquoi nous on reconnaîtrait des mesures provisionnelles étrangères alors que cette reconnaissance n'est pas garantie dans les autres pays? Mais on sait que la réciprocité n'est pas une condition pour la reconnaissance des mesures étrangères de manière générale. Et donc pourquoi la faire jouer seulement en matière de mesures provisionnelles? Alors c'est vrai que les États tiers en particulier, les États non européens, sont assez réticents en matière de reconnaissance des mesures étrangères. Alors, vous trouverez dans les slides, je ne vais pas les passer en revue, mais vous trouverez quelques indications pour les États-Unis, pour la Chine et la Russie qui sont de manière générale réticentes en matière de reconnaissance, pour le Japon, le Canada. Donc tous ces pays ne reconnaîtront probablement pas des décisions extraterritoriales suisses. Donc est-ce que la Suisse allait faire? Mais il y a la réciprocité n'est pas une condition, effectivement. Et puis, la question est l'intérêt des parties dans les cas concrets. Et je souligne aussi qu'il y a des pays qui l'admettent. Alors, par exemple, le Brésil a une disposition expresse dans le Code de procédure civile, est passive d'exécution de ses actes étrangers, concessive des mesures d'urgence. Donc, il y a une règle spécifique qui permet au juge brésilien de reconnaître. Les arguments pour l'utilité que j'ai déjà mentionnée, et puis surtout l'existence de sauvegardes suffisantes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on peut appliquer peut-être de manière analogique toutes les sauvegardes qui sont prévues dans le cadre du système Lugano, mais il y a aussi les conditions de reconnaissance de la LDIP qui finalement ne sont pas si larges que ça, même si souvent on a l'impression contraire, et notamment la question de la compétence indirecte. Les défenseurs domiciliés en Suisse sont toujours protégés en matière contractuelle, en matière extracontractuelle, parce que les conditions de reconnaissance sont très restrictives. Il y a aussi la litis pendance, etc. Donc, je serais plutôt favorable, vous l'avez compris, à admettre cette exécuture. Après, évidemment, il y a la problématique de comment ces mesures provisionnelles étrangères seraient mises en œuvre en Suisse, et nous en parlerons tout à l'heure avec les interventions qui vont suivre, notamment l'intervention de Sandrine Giraud. Je vous remercie de votre attention. Je m'excuse d'avoir largement excédé, je pense, mon temps.